Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance.
Hey, you know what?
Réalisé par François Connac avec Virginie Cassagne à la technique, diffusé tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 11h. Les nouveaux chemins de la connaissance sont préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Jeanne-Marie Roux et Adèle Van Rett. Adèle qui, à 10h50, tout à l'heure, dans le journal des Nouveaux Chemins, recevra Chantal Jacquet pour une remarquable philosophie de l'odorat. Suite et suite, ce jeudi d'une semaine sur l'islam dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Après Leïli Anvar, venue lundi vous parler de la place des femmes dans l'islam. Après Marwan Rached, venu vous donner un aperçu hier de la façon dont la pensée grecque avait fécondé la philosophie arabo-islamique et de la façon dont les penseurs, les grands penseurs musulmans avaient eux-mêmes inspiré, parfois à leur insu, les philosophes du XVIIe siècle européen. Après Mahmoud Hussein, venu mercredi vous raconter la vie du prophète et avant Abdelwahab Medeb qui demain montrera comment on peut lire le Coran, c'est aujourd'hui Makram Abbès qui enseigne la littérature et la civilisation arabe à l'École normale supérieure de Lyon, à qui l'on doit un ouvrage intitulé « Islam et politique à l'âge classique » paru aux presses universitaires de France, Makram Abbès donc, qui est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour évoquer la question de la compatibilité entre l'islam et la démocratie. Bonjour Makram Abbès.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue au Nouveau Chemin de la Connaissance. On va commencer par le plus bête. Que vaut et d'où vient l'idée reçue selon laquelle l'islam est incompatible avec la démocratie?
Oui, effectivement, donc cette idée de l'incompatibilité entre islam et démocratie est parfaitement ancrée dans ce que les philosophes arabes appelaient à l'époque médiévale l'opinion commune irréfléchie. Effectivement, donc c'est un lieu commun. Que nous trouvons même parfois dans certains travaux de qualité. Mais il est facile, effectivement, de montrer les insuffisances de cette vision de l'incompatibilité entre islam et démocratie. D'abord, si on définit la démocratie en tant que, donc, tout simplement, une question d'alternance entre différents pouvoirs, donc différentes personnes qui se succèdent à la tête de l'État, eh bien, nous allons voir effectivement que la plupart des régimes donc du monde musulman à l'heure actuelle peinent à trouver donc cette forme de rationalisation de l'alternance donc à la tête de l'État.
C'est ce que j'allais vous dire. Non seulement la démocratie se définit pas seulement par l'alternance, mais en plus l'alternance, il y en a pas toujours dans les pays musulmans.
Exactement. Tout à fait. Alors effectivement, cette réalité donne l'impression donc d'une incompatibilité entre la religion d'une manière générale, les valeurs véhiculées donc au sein de ces différentes sociétés et donc le fonctionnement du politique. Mais je pense qu'il faudrait relativiser donc cette idée d'incompatibilité dans la mesure où l'Occident lui-même en fait n'a accédé à cette forme donc d'alternance que très tardivement, donc à partir disons du 19e, donc tout le travail qui a été préparé par les révolutions scientifiques du 17e siècle, ensuite par les Lumières, et donc tout cela s'est mis en place lentement, donc des transformations juridiques, des transformations sociales, des transformations politiques qui ont conduit effectivement donc à des formes de démocratie d'ailleurs qui sont toujours menacées. On a vu donc au 20e siècle l'émergence de totalitarisme, donc de régimes donc tout à fait opposés à la démocratie. Donc vous voyez très bien que c'est une forme en fait qui est tout à fait récente et le fait que les sociétés musulmanes n'aient pas suivi en fait ce processus se comprend donc à long terme par les transformations culturelles, civilisationnelles, philosophiques donc qui n'ont pas touché en fait ce monde de la même manière donc qu'elles ont touché l'Occident à partir du 16e, 17e siècle.
En somme, ce que vous dites, Makram Abbès, c'est que c'est historiquement que les conditions d'émergence du récent phénomène démocratique, mettons de côté Athènes peut-être ici,
tout à fait,
l'Athènes
bien sûr,
démocratique.
C'est une forme de démocratie antique, effectivement.
Mais c'est historiquement que les conditions d'émergence du régime appelé démocratie C'est historiquement et géographiquement, au fond, que ces conditions... C'est donc accidentellement que l'islam n'a pas expérimenté les conditions d'émergence, révolution scientifique ou bien révolution culturelle au sens de la philosophie des Lumières, qui en détermine l'avènement.
Tout à fait. Mais cela dit, en fait, l'islam en tant que tel, en fait, en tant que, disons, religion ou bien en tant que culture également, ou culture au pluriel, n'est pas du tout opposé ou bien hostile donc à l'installation de la démocratie.
C'est ça, parce que la tentation est grande d'ériger le fait en norme, le fait qu'il n'existe pas de démocratie musulmane, littéralement, est-ce qu'on peut dire ça d'ailleurs ?
C'est pour cela justement que j'ai parlé d'opinion commune et réfléchie, que ce soit d'ailleurs en Occident ou bien dans le monde arabe ou musulman. D'ailleurs, en fait, certains régimes comme par exemple la Turquie, qui était donc représentative de l'islam pendant plusieurs siècles avec l'Empire ottoman, eh bien, nous voyons très bien qu'il y a une forme donc, d'alternance qui s'est installée à la tête de l'État. Alors, l'autre sens de démocratie, effectivement, le pluripartisme, par exemple, donc la pluralité des partis, là encore, c'est un fonctionnement tout à fait moderne, en fait, le système des partis, et la possibilité de dialoguer avec l'adversaire politique, de donner la parole donc à ceux qui pensent autrement le bien public, eh bien tout cela, donc ce sont des formes modernes qui se sont installées récemment dans la vie politique d'abord occidentale, et après le modèle s'est généralisé un petit peu partout dans le monde. Là encore, nous voyons en fait que ça commence à prendre un petit peu dans certains pays du monde arabe, même par exemple dans les monarchies comme le Maroc. Nous voyons très bien qu'il y a beaucoup de partis, même une sorte de profusion de partis politiques, toute la culture en fait qui entoure bien évidemment la naissance et l'émergence de ces partis, comme la liberté d'expression, la possibilité donc de se réunir, de s'exprimer, d'avoir des organes de presse, etc., etc. Mais dans d'autres États, malheureusement. Donc on a du mal à mettre en place cette forme donc de compétition politique, tout simplement parce que je pense que c'est une forme en fait d'attachement à un pouvoir, une forme désuète en quelque sorte et archaïque de justification et de légitimation du pouvoir. Donc c'est le pouvoir d'une seule personne, d'un seul parti. Alors qui peut avoir effectivement quelques liens avec des cultures anciennes qui ont émergé donc dans la culture arabo-musulmane, mais qui doit aussi beaucoup de choses à des formes modernes comme le stalinisme, comme d'autres formes en fait d'idéologies qui sont hostiles donc à l'installation de la démocratie. Et le troisième justement argument que je voulais en fait avancer, c'est que l'islam en fait dès sa naissance, si on parle ne serait-ce que du fait religieux. C'est-à-dire à partir
du 7e siècle.
Voilà, 7e siècle. Et surtout, en fait, à la fin du 7e, début du 8e siècle, donc au moment vraiment où tout s'installe pratiquement, les sciences, la politique, le droit, la grammaire, en fait, voilà. Nous allons constater que l'islam, en fait, avait emprunté l'essentiel de la science politique universelle, donc qui existait au moment, donc à l'époque, chez d'autres nations, les Grecs, les Perses, les Hindous. On parle aussi des Chinois. Donc, il y a, si vous voulez, dès le départ, une volonté d'intégrer, d'assimiler toutes les formes universelles en fait, de sciences politiques, d'aller chercher la science politique là où elle se trouve. Et c'est ce qui a été fait, effectivement, par les savants, par les princes, par les secrétaires de l'administration, donc qui ont traduit, par exemple, les lettres d'Aristote à Alexandre. En fait, c'est un pseudo-Aristote, mais dans lequel, en fait, nous avons un fond de pensée politique hérité des Byzantins. Nous avons également les textes de Platon, la République, les lois, etc. Nous avons les textes des rois perses, donc les chroniques des rois, ou bien d'autres textes qui vont former le genre du miroir des princes. Et enfin, nous avons aussi d'autres sources qui sont indiennes, Kalila et Demna, donc qui est un ouvrage de fable. Et en fait, derrière la forme littéraire, il y a toute une philosophie du gouvernement de soi et des autres qui a été exploitée par les savants, par les lettrés, par les penseurs politiques. Et c'est ce qui a donné donc naissance à plusieurs formes de pensée politique. Donc vous voyez très bien que l'origine, finalement, elle était étrangère. Donc rien n'empêche l'islam ou bien les musulmans à l'heure actuelle d'aller chercher en fait les principes universels de la science politique dans la démocratie, là où elle se trouve.
Voilà. On va revenir hein, sur tout ça, hein, notamment sur la politique à l'âge classique dans le monde musulman, puisque c'est là-dessus principalement que vous avez travaillé, Makram Abbas. On va revenir là-dessus et en particulier sur ce que vous dites de ce genre qu'on appelle le miroir des princes. On va en parler ensemble. Néanmoins, encore une question, une digression qui n'en est pas une en vérité. Il y a souvent des débats sur la question de savoir si la démocratie est ou non compatible avec un refus de l'économie de marché. Bien souvent, vous avez les Aroniens qui disent « il n'y a pas de démocratie sans économie de marché, l'histoire l'atteste, etc. etc. » Et vous avez d'autres qui disent « mais laissez une chance à l'histoire justement, envisager la possibilité d'une démocratie qui ne produirait pas une économie de marché, ce système qui débouche sur l'exploitation de l'homme par l'homme. » Un Aronien dirait qu'il n'y a pas de démocratie sans économie de marché, non pas pour des raisons accidentelles, contingentes, historiques, factuelles, mais pour une raison de fond. C'est que la démocratie, c'est la liberté, et qu'il n'y a pas de liberté d'expression sans liberté d'entreprendre, au fond. Et que par conséquent, c'est pour une raison essentielle qu'il n'y a pas de démocratie sans économie de marché. Ce n'est pas un hasard si toutes les entreprises d'abolir l'économie de marché ont débouché sur des massacres de masse. Bon. J'ai envie de vous poser la même question avec l'islam, Makram Abbas. Il n'y a jusqu'ici, jusqu'à nouvel ordre,
tout à fait,
aucune démocratie telle que nous pouvons la souhaiter ou l'appeler de nos voeux, c'est-à-dire qui en gros garantisse le maximum de liberté individuelle, et qui pourtant se revendique comme étant musulmane. Est-ce, là encore, alors sans faire l'aronien justement, raison de fond ou bien raison accidentelle? Si raison accidentelle, quel est le contexte, quel est le malentendu historique qui a fait que il n'existe pas encore de démocratie de cette nature?
Oui, alors, bon, d'abord, je pense qu'il serait important, pour répondre à votre question, de chercher à ne pas essentialiser ni la démocratie, ni l'islam, bien évidemment, parce qu'il y a plusieurs formes de démocratie, par exemple, entre le modèle français et le modèle anglo-saxon, donc il y a beaucoup de divergences. Par ailleurs, je ne sais pas, en fait, je ne peux pas parler d'avenir, prophétiser en fait, par rapport à ce qui peut suivre en fait, dans un siècle, plusieurs siècles, sur la démocratie musulmane ou islamique. Je ne sais pas, je me demande par exemple si à l'heure actuelle on parle de démocratie chrétienne ou bien...
L'expression de démocratie chrétienne existe
en tout cas. Oui, en fait, bon,
mais effectivement...
Elle désigne autre chose, voilà, exactement.
Une démocratie chrétienne est un parti qui se trouve dans un état laïque.
Voilà, exactement, et c'est propre notamment aux pays protestants, donc ça s'est développé par exemple en Allemagne, etc. Bon, peut-être en fait qu'il y aura un jour un modèle qui serait spécifique de démocratie, donc qui serait spécifique à certaines sociétés du monde musulman, mais je pense que la démocratie tout simplement est un régime qui actuellement... universellement, donc disons le meilleur, sans bien évidemment essentialiser en fait le régime démocratique en tant que tel, mais en tout cas, si certains pays du monde musulman n'ont pas encore perçu qu'il est possible de gouverner avec le peuple et non pas contre le peuple, avec la société et non pas contre la société, avec l'individu et les valeurs donc de la liberté individuelle, etc., et non pas contre l'individu, eh bien, je pense que il leur faudrait donc du temps pour comprendre cela, mais peut-être que il faudrait laisser les choses donc se faire donc tranquillement, en douceur, dans l'histoire, avec des transitions, des changements, des modifications. Mais de toute façon, actuellement, je suis d'accord avec vous sur le fait que les régimes en place n'ont pas perçu encore que pour leur bien politique, c'est-à-dire que les régimes en place, les États en place, pourraient penser éventuellement, que pour leur bien. Donc
de façon assez cynique, machiavélienne au fond.
Voilà,
la démocratie est la garantie de la perpétuation du pouvoir.
Absolument. Ouais. L'exemple de l'Irak,
c'est un pouvoir solide. Voilà.
Voilà, et l'exemple justement de l'Irak le montre tristement bien, parce que effectivement, l'ancien président n'a pas compris que pour le bien de son régime, il fallait effectivement changer, il fallait donc adopter d'autres valeurs, il fallait adopter d'autres modes de gouverner. Et malheureusement, bien des États donc n'ont pas compris que la logique interne du politique elle-même, donc même si on se place dans cette perspective machiavélienne, exige donc d'adopter ce genre de transformation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ce n'est pas le fait de considérer que la démocratie est un bien en soi, mais le fait déjà, du point de vue du politique, de penser qu'il est possible de se fortifier politiquement en adoptant ce régime, ou bien cette forme donc, de gouvernement, eh bien, cette idée, malheureusement, n'est pas encore... donc à l'ordre du jour dans les États actuels.
universitaire Makram Abbes est l'invité des nouveaux chemins de la connaissance islam politique, islam et politique à l'âge classique aux presses universitaires de France dans la collection Philosophie. C'est l'ouvrage de Makram Abbes. Makram Abbes, dans le débat qui pose la question de savoir si l'islam et la démocratie sont compatibles ou incompatibles, les uns se réfèrent à la démocratie comme emblème et produit de l'Occident, et à l'islam comme une religion figée, atemporelle et donc par nature incompatible avec la modernité politique. Les autres considèrent que l'islam est également une construction historique, séculière, et qui, à ce titre, peut légitimer un régime démocratique aussi bien qu'un régime despotique. Est-ce qu'il ne faut pas, pour rendre compatible ou penser la compatibilité de l'islam et de la démocratie, en venir, d'ailleurs c'est le sujet qu'on évoquera demain avec Abdelwahab Medeb, à séculariser tout simplement l'islam?
Oui, alors effectivement, la question de la sécularisation est très importante. En fait, actuellement, on a l'impression, encore une fois, donc comme c'est le cas pour la démocratie ou pour la loi, enfin ce qu'on appelle la charia, donc on a l'impression qu'il n'existe pas donc de sécularisation ou bien de processus en place, qu'il y a un lien indéfectible entre le politique et le religieux, que le politique est toujours soumis donc, à des formes d'investissement théologique, quelles que soient donc, les formes ou bien les manières donc, de considérer la théologie.
C'est très important, hein, je ne veux pas vous interrompre, mais c'est très important de donner justement, de bien décrire cette opinion, cette idée-là, et les arguments qu'il étaye précisément pour, en un sens, la combattre.
Tout à fait. Et donc, mais lorsqu'on étudie en fait de près les textes, lorsqu'on regarde de près les textes et qu'on fait un examen approfondi en fait des concepts même du politique en islam, c'est ce que j'ai essayé donc de faire dans ce petit travail, eh bien nous allons constater qu'il y avait un processus de sécularisation qui était en place, de mondanisation, d'immanentisation du politique, d'autonomisation du politique qui était en place donc très très tôt justement en islam.
Avec les Moutazilites ?
Alors, même bien avant, c'est-à-dire
que... Il faut remettre les choses dans leur chronologie,
pour nos auditeurs. Tout à fait. Ouais. Alors, en fait, d'une manière générale, lorsqu'on évoque la sécularisation, eh bien, cela se fait de manière tout à fait pertinente par rapport à l'histoire de l'Occident, où le politique a mis du temps à sortir en fait de la gangue du religieux, parce qu'il y avait un pouvoir concurrent qui était l'Église, qui était parfaitement institutionnalisé, donc qui fonctionnait avec une économie, donc des ordres, une hiérarchie, des biens, etc., etc. Donc ça fonctionnait en fait sur le modèle de l'État. Et après, en fait, l'État moderne, à partir du XVIe, XVIIe siècle, effectivement, va emprunter les schèmes, les paradigmes en fait propres aux religieux pour pouvoir s'affirmer progressivement, petit à petit. Alors cela s'est fait sur plusieurs phases. Et la phase du XIIIe siècle étant tout à fait déterminante. Donc, c'était au moment des croisades, justement, des contacts avec les musulmans. Et ensuite, avec le travail de sape mené par Machiavel, donc sur le plan moral, au XVIe siècle. Et ensuite, donc, petit à petit, si vous voulez, l'État ou bien l'espace de l'État s'affranchit, donc s'autonomise par rapport aux religieux. Alors, nous n'avons pas le même...
Ce qui est très important, c'est que cet affranchissement de l'État par rapport aux religieux, cette façon qu'ils ont eu de se distinguer, Machiavel étant une date cruciale dans ce processus...
Absolument.
Passe par une amoralisation
de l'État
et du pouvoir, que ce soit chez Machiavel, chez Spinoza ou chez Pascal d'ailleurs.
Tout à fait.
Il y a une amoralisation du pouvoir. Est-ce qu'on observe un tel processus dans le monde arabo-musulman?
Alors justement, ce processus, on peut l'observer, on peut l'étudier à partir du 8e siècle, puisque l'islam en fait a eu ses schismes très très tôt. Si vous voulez, les guerres de religion en Europe ont joué un rôle déterminant pour amorcer justement ou bien achever en quelque sorte cette transition. Et en islam, en fait, dans la mesure où on a eu une guerre civile 30 ans après la naissance de l'islam, c'est-à-dire au milieu du 7e siècle, et en fait la guerre civile est à la fois en quelque sorte la condition et la conséquence de l'affranchissement du politique par rapport à la sphère du religieux. Donc il n'y a pas eu d'institution ecclésiastique, il n'y a pas eu, si vous voulez, d'ordre représentant la religion donc, au sein de l'islam, donc lors de sa naissance, et surtout le politique avec les Oumayyades qui s'installent donc à Damas pratiquement. La dynastie des Oumayyades, effectivement. Donc c'est le premier pouvoir en quelque sorte qui est sorti victorieux de cet affrontement entre les différentes factions, les différentes idéologies en place, les différents chefs. Eh bien, ce pouvoir en fait va va délimiter l'espace du politique, qui devient tout simplement régi par les purs rapports de force, ou bien de domination. Il n'hésite pas en fait à employer le secret. Par exemple, le fondateur de ce régime, qui est Mouraoui, donc est considéré par dans la littérature politique, notamment celle des Miroirs des Princes, comme un rusé, un fin calculateur, donc quelqu'un qui a réussi à fonder donc un pouvoir. Donc il est en quelque sorte à l'image des autres souverains, des grands souverains. Donc vous voyez, le politique en fait a son mode de fonctionnement, le secret. Donc la morale effectivement ne s'immisce pas dans ce fonctionnement.
Vous voulez dire que c'est l'islam naissant qui a inventé la séparation de l'Église et de l'État ?
Justement, il n'y avait pas d'Église. Donc, vous voyez un petit peu la spécificité de cette troisième religion monothéiste, donc qui n'a pas conduit à l'institutionnalisation du fait religieux. Et donc, cela, déjà, a été un facteur déterminant. Et ensuite, le deuxième facteur, c'est que, au lendemain des schismes, donc de la première guerre civile, une génération après la naissance de l'islam, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les musulmans se sont battus entre eux, en fait, au moment où il y avait les conquêtes, pour des raisons d'ailleurs politiques, principalement, liées donc à la nature du chef, liées donc à la nature de l'État qu'il faudrait construire, liées donc aux qualités donc du chef qu'il faudrait choisir. Alors, est-ce qu'il faudrait le choisir ? Est-ce que c'est le chef en fait qui réussit à l'emporter, qui doit être admis par l'ensemble des musulmans ? Donc, il y a toute une querelle autour de cette question des qualités du chef suprême, etc. Mais d'une manière générale, on peut dire qu'à partir de cette date, eh bien, le politique est tout à fait autonome, son fonctionnement est tout à fait autonome, et il y a surtout une rationalité politique donc qui se met en place, qui s'oppose bien évidemment à une rationalité d'ordre moral, d'ordre donc religieux, si vous voulez l'appeler religieuse, mais en fait sans penser bien évidemment au socle institutionnel en fait qui pourrait la soutenir, comme c'est le cas dans l'Occident. Mais en tout cas, nous avons donc une rationalité gouvernementale qui est tout à fait proche de ce que nous allons avoir effectivement avec Machiavel. Je peux développer en fait cet aspect à partir de certains exemples puisés dans les textes des miroirs, si vous le voulez.
C'est ce qu'on va faire immédiatement avec vous, Makram Abbès.
Merci.
Makram Abbès est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ce jeudi, Islam et politique à l'âge classique, c'est l'ouvrage qu'il a fait paraître aux presses universitaires de France. Et à cet égard, Makram Abbès est notre invité dans une semaine sur l'islam pour parler de la compatibilité ou l'incompatibilité de l'islam et de la démocratie.
Et donc tout à l'heure, je rappelais que la sécularisation était déjà en place donc à partir, disons, du 7e ou 8e siècle. Bien évidemment, il ne faut pas que ce concept soit recouvert totalement par les significations, les représentations que nous avons, nous, modernes, bien évidemment, de ce concept. Autrement, on tomberait dans des formes d'anachronisme
qui donne à la fois le sentiment de comprendre tout en masquant ce qu'il faut comprendre.
Oui. Absolument, et qu'il fausserait carrément donc les termes de l'analyse. Mais je parlais effectivement disons d'espace politique autonome qui a ses lois, ses propres modes de fonctionnement. Et cela est très important parce que on pense généralement que ce phénomène est né au 16e, 17e siècle uniquement en Occident. Or, j'ai essayé de rappeler en fait dans ce texte, dans ce petit livre, que ce phénomène est déjà perceptible donc dans le monde musulman, en Orient, donc à partir du 7e, 8e siècle. Et l'héritage grec et perse a joué un rôle important donc dans la mise en place justement de ce fonctionnement ou bien de cette représentation du politique.
Vous voulez dire qu'il y a un équivalent politique à ce dont on parlait avec Marwan Rached mardi dernier, c'est-à-dire à l'intégration, l'incorporation, la fécondation de la philosophie grecque par une philosophie arabo-islamique.
Absolument. Si je prends en fait un petit exemple de la sécularisation en tant que mondanisation, en fait, c'est l'un des aspects les plus forts des études qui concernent ce processus. Et par exemple, le travail de Blumenberg, La légitimité des temps modernes, a mis en évidence, il y a très peu de temps, l'importance de ce phénomène de mondanisation, de curiosité scientifique, d'attention accordée au monde, au phénomène, dans le monde, à la promotion du monde. Eh bien, tout cela, on peut effectivement l'observer en étudiant les sciences, justement, les sciences dans le monde arabo-musulman, puisque vous avez cité l'exemple de la philosophie. Et je donne, en fait, comme exemple, l'approche qu'avaient les philosophes arabes, que ce soit de la politique en tant que science autonome ou bien de la science de l'âme, par exemple. Eh bien, ils avaient une approche, une attitude athéologique vis-à-vis de cette science, c'est-à-dire que leur manière d'aborder l'âme en tant que partie de la biologie, ou bien des sciences naturelles, de ce qu'ils appelaient les sciences naturelles, n'était pas du tout pervertie par les textes religieux, par l'approche religieuse. Par exemple, en islam, comme dans les autres religions, la survie de l'âme est un dogme. C'est un dogme auquel il faut croire. Donc, c'est sur le plan religieux. Eh bien, si on prend le Dianima d'Averroès, nous allons constater que l'introduction, dans l'introduction, à ce livre...
Commentaire d'Aristote. Hein.
Qui est effectivement un commentaire d'Aristote, mais également aussi dans d'autres textes comme celui d'Avant-Passe, en fait, le même titre qui est d'Avant-Passe, eh bien, nous allons constater que ces auteurs ne partent pas du fait religieux. C'est-à-dire qu'ils étudient d'abord la question de l'âme, comme un phénomène purement scientifique, en tant que partie de la biologie, et après ils envisagent la possibilité ou non de la séparation de l'âme dans l'au-delà, et la possibilité ou pas de la survie de l'âme. Tout cela, bien évidemment, se fait, si vous voulez, selon les normes, selon les données, les postulats de la science de l'époque, bien évidemment. Et nous voyons très bien que ce fonctionnement athéologique, qui ne veut pas dire que c'est irréligieux, pas du tout, ce n'est pas le même sens.
Non, c'est même le contraire.
C'est même le contraire, voilà. Et donc, ce fonctionnement, eh bien, était également présent dans le domaine politique. Et c'est un point très important parce que le domaine politique, eh bien, avait son mode de fonctionnement. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Nous avons, par exemple, beaucoup de textes sur le secret politique, beaucoup de textes sur la raison d'État, beaucoup de textes qui insistent sur le conseil en politique, donc sur les offices du gouvernement, sur la question... Alors, toute la littérature éthique du gouvernement de soi et des autres. Donc, vous voyez que la morale, effectivement, ou bien la morale religieuse, surtout, qui peut revenir de temps en temps, qui peut être là comme une sorte de rappel dans la littérature parénétique qui s'adresse au souverain. Mais en tout cas, cette littérature politique, eh bien, était tout à fait affranchie du poids de la morale ou bien de la religion.
C'est passionnant de vous entendre, Makram Abbès. Peut-être pour illustrer ce que vous dites, vous allez me dire ce que vous en pensez. On va entendre bout à bout un extrait du Destin de Youssef Chahine qui raconte l'histoire d'Averroès, où on entend donc un Averroès de fiction, un Averroès fictif, mais remarquablement interprété, je dois dire, montrer que l'impiété n'est pas exactement là où l'on croit qu'elle se trouve. Et puis, à la suite de ça, un extrait des Moukadima. Un prolégomène à l'histoire universelle. Dans le livre des exemples, c'est une lettre envoyée par un général du calife Al-Mamoun, dont on a déjà parlé d'ailleurs avec Marwan Rached, à son fils nommé gouverneur pour lui donner des conseils de sagesse. À vous de nous dire, Makram Abbès, si la juxtaposition de la parole d'Averroès et de cette lettre qu'on va entendre ensuite est signifiante, ou bien si c'est un artifice, ne nous épargnez pas.
Écoutez. D'accord.
À 20 ans, on n'a plus le droit de dire... J'ai perdu ma maman quand j'étais petit, j'en ai souffert. Mon père préférait mon frère, ça m'a complexé, c'est pour ça que je me suis renfermé, que le monde m'a fait horreur. Après ce que j'ai subi, j'ai le droit de l'accuser d'impiété. Facile. Oh oui, facile de justifier la paresse. La jalousie, la haine que tu caches au plus profond de ton cœur en rejetant la faute sur les autres. Dis-moi, c'est la gloire que tu recherches. Mets-toi au service des autres et elle te sera accordée. Mais c'est toute la haine que tu voues à ton prochain qui est blasphématoire. L'impiété, tu y as sauté à pieds joints.
Mais je ne voulais que répandre la parole de Dieu.
Parce que ma parole vient de Satan ! Qui, toi ? C'est toi qui veux répandre la parole divine ? Quel prétentieux. Mais tu es tellement bête et ignorant que tu ne vois pas que tu es creux, que tu répètes les absurdités qu'on te dit. J'apprends de vers par cœur, je suis poète, j'apprends de verser du Coran, je suis savant. De la médecine, qu'est-ce que tu sais? Ou de l'astronomie? Des mathématiques? De la chimie? De la philosophie? Et de l'amour, qu'est-ce que tu as appris? De la vérité? De la justice? Mais que sais-tu de tout ça pour vouloir répondre la parole divine? Réponds-moi! Réponds-moi. Mais à quoi ça sert? Je ne sais même plus pourquoi j'écris. Si ma réflexion ne sert à personne! Je vais vous en débarrasser, moi! Pourquoi attendre que les autres les brûlent? Allez au feu, toutes ces futilités! Que chacun se débrouille comme il peut! Arrête! Laisse-les brûler! Laisse-les brûler! Ça n'est plus ton affaire!
Je ne suis pas un animal!
Les animaux ont plus de compassion que toi, et que tous les fanatiques de ta secte, ils ont plus de compassion! Tu entends?
Ta responsabilité de gouverneur fait de toi un trésorier, un gardien et un administrateur. Les gens placés sous ton administration sont appelés tes sujets parce que tu les gardes comme un berger son troupeau et qu'ils sont confiés à tes soins. Accepte ce qu'ils te donnent de leur excédent et emploie-toi à les soutenir, à assurer leur bien-être, à alléger leur peine. Emploie pour la gestion de leurs affaires des hommes clairvoyants, habiles et expérimentés, versés dans la politique en théorie et en pratique, capables d'agir avec modération. Verse-leur de bons salaires, c'est une des obligations de la charge dont tu es investi, que rien ne t'en détourne. Si tu t'adonnes avec zèle à cette tâche, tu attireras sur toi un surcroît de faveur de ton Seigneur. Tu seras loué pour ton œuvre, tu gagneras l'amour de tes sujets, tu contribueras à la prospérité générale. Dans ton pays, il y aura des biens à profusion, la culture se répandra, tes villes connaîtront l'abondance, ton revenu foncier augmentera, tes richesses seront grandes. De la sorte, tu auras les moyens de t'attacher tes troupes, de satisfaire le peuple en lui prodiguant tes dons. On vantera ton gouvernement et ta justice sera reconnue de tes ennemis. Dans toutes tes entreprises, tu seras juste et fort, bien armé et équipé. Applique-toi donc à tout cela et fais le passer avant toute chose. Il en résultera pour toi les meilleures conséquences, si Dieu le veut.
Makram Abbes, quel y a-t-il un sens à juxtaposer la parole d'Averroès, qui repère paradoxalement de l'impiété chez le littéraliste, chez celui qui veut transmettre la parole divine sans la discuter, sans la questionner, c'est-à-dire en toute ignorance de cause finalement, et les conseils de sagesse prodigués par un père à son fils qui devient gouverneur?
Tout à fait. En fait, il y a bien sûr un lien, mais qui est assez ténu, assez fin entre les deux auteurs. Averroès, dans cette version du film de Chahine, s'adresse à quelqu'un pour l'entretien en fait de la question de l'impiété, qui était une question tout à fait fondamentale et une accusation surtout. Qui a collé à la personne même d'Averroès par ses adversaires à la fois politiques, idéologiques et religieux. Mais surtout, cette accusation en fait était d'ordre intellectuel puisque l'origine en fait de cette accusation remonte à un texte qui a été rédigé par Razali dans lequel il a condamné la philosophie et les philosophes de l'islam, principalement donc ses prédécesseurs, Farabi, donc 10e siècle, et Avicenne, 11e siècle. Et Razali, donc, qui est mort en 1111, a violemment réagi donc, aux sciences philosophiques et a fait un texte qui s'intitule « L'incohérence des philosophes », dans lequel donc, il a accusé les philosophes d'impiété autour de trois questions, donc métaphysiques, enfin, qui concernent les sciences naturelles et la métaphysique principalement. Et Averroès donc, a répondu pratiquement...
Par l'incohérence de l'incohérence.
Voilà, absolument, par l'incohérence de l'incohérence. Et la question de l'impiété, donc, on sent très bien qu'elle était à la fois un sujet philosophique, un problème politique autour duquel donc s'articule en fait tout le lien entre le politique et le religieux, mais en même temps un problème d'éducation et un problème aussi du fonctionnement entre la masse et l'élite. Donc le rapport entre, disons, la masse et l'élite et, autrement dit, aussi les gouvernants et les gouvernés. Je pense d'abord en fait, qu'il s'agit là d'un problème universel, par exemple au cœur des Lumières. Nous voyons très bien qu'avec Rousseau, donc, il y a eu des condamnations, des jugements donc, qui ont été donc, émis à propos de l'Émile, et principalement donc, une partie qui est la profession de foi du vicaire savoyard. Et Rousseau donc, a réagi ensuite parce qu'il a été accusé d'impiété, d'être donc, un hérétique, etc. On a décidé de brûler ses œuvres. Et donc là, vous voyez très bien que c'est une question qui poursuit malheureusement tous les penseurs libres, tous les hommes donc, qui essaient d'interpréter, qui essaient donc, de lire autrement les textes, qui essaient de présenter des regards tout à fait nouveaux, donc de jeter quelques lumières en fait, sur les textes qu'on croit parfaitement compris, donc on estime, dont on estime que le sens est totalement achevé, clos. Eh bien, ces auteurs, malheureusement, ils sont toujours la cible donc, des accusations à la fois de la masse et aussi de certains savants qui sont mus par leurs convictions personnelles, intimes, et qui estiment en fait que ces auteurs, ces philosophes sont un danger. Alors Averroès, justement, dans ses travaux philosophiques, a fait du problème théologico-politique vraiment l'un des points forts en fait, de sa doctrine politique. Et c'est la raison pour laquelle il a estimé qu'il fallait supprimer tous les travaux donc, théologiques, en fait, enfin, pas les travaux, mais en quelque sorte les spéculations qui se faisaient en fait, autour du texte et de la loi, sans que les auteurs, donc les auteurs de ces spéculations, n'aient le bagage scientifique suffisant pour parler de métaphysique, pour parler de sciences naturelles, ou bien pour débattre en fait, de ces questions ardues, obscenses, donc, et très difficiles, même pour ceux qui maîtrisent parfaitement cet art. Et donc, du coup, je pense que sa critique de la théologie visait tout simplement à redonner du sens à la métaphysique, à une bonne métaphysique, c'est-à-dire en tant que science, hein, au même titre que la physique, ou bien que l'âme, ou bien
mais
l'éthique.
Mais est-ce qu'on est en droit, Makram Abbès, de considérer qu'une telle démarche, là encore, trouverait un pendant politique qui serait, si Averroès l'avait emporté, une forme de démocratie?
Oui, alors malheureusement...
On ne le saura jamais, mais justement, est-ce qu'on a le droit, est-ce que conceptuellement, est-ce qu'analytiquement, on peut tirer de cette, de cette ontologie d'Averroès, mm-hmm. de ce discours d'Averroès, de ce oui. rapport qu'il établit entre la lettre du texte, justement, son interprétation et l'utilisation de la raison, cette préséance de la raison également chez Averroès, malgré oui. tout. Est-ce qu'on peut tirer de tout cela une conception qui, fidèle à lui, serait une conception authentiquement démocratique?
Oui, tout à fait. Mais malheureusement, en fait, le changement au niveau des valeurs, au niveau du rapport aux choses, au niveau de l'homme aussi, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'éducation politique, l'éducation sociale, l'éducation religieuse, le changement au niveau de la manière d'accéder à l'invisible, etc., de se le représenter, eh bien tout cela se met en place très lentement. Et le fait est que, historiquement, donc je disais malheureusement, c'est pour cela que je disais malheureusement tout à l'heure, c'est parce qu'en islam, après Averroès, pratiquement, même si en fait là c'est une idée qu'il faudrait préciser, mais on n'a pratiquement plus de philosophes du même type en fait d'Averroès. C'est pour cela qu'au XXe siècle, lorsqu'elle a été redécouverte, eh bien il a été totalement récupéré par une pensée libérale au début du XXe siècle, au moment de la Renaissance, ce qu'on appelait l'Anarda. Donc il y avait beaucoup de débats, beaucoup de reprises, beaucoup de réactivations en fait de la pensée d'Averroès, mais donc cela reste en fait limité à une question d'usage, c'est-à-dire d'usage de cette pensée. Je pense qu'il faudrait à la fois savoir s'en servir, mais en même temps la dépasser, donc s'inspirer d'autres horizons pour pouvoir effectivement renouer en fait avec les valeurs modernes ou bien accéder à d'autres formes de bien politique telles que la démocratie. Voilà.
Deux questions, Makram Abbès, parce que le temps passe quand même. La charia, le djihad. C'est-à-dire, tenons-nous-en, alors partons, c'est très intéressant, oui. Partons des idées reçues.
Très bien.
La charia, un code infâme qui, pour le dire très rapidement et justement à dessein, le plus grossièrement possible, hein, coupe la main des voleurs, quoi qu'il arrive, par conséquent, s'élabore à l'exclusion de toute réflexion démocratique. Bref, un système barbare. De l'autre côté, le djihad, c'est-à-dire, sous l'alibi d'une quête de la vertu, en vérité, une guerre sainte. Qu'en est-il véritablement de la charia et du djihad, et dans quelle mesure une interprétation bien comprise de ces deux termes permet éventuellement, je ne sais pas, c'est vous qui allez nous le dire, de concilier justement l'islam et la démocratie.
Bon, très bien, mais justement c'est très bien de partir des idées reçues parce que ça permet en fait de bien les démonter, de voir en quoi en fait ces idées donc doivent être abandonnées pour pouvoir tout simplement ne plus être dans l'idéologique et analyser sereinement les choses, hein, parce que on peut se retrouver sur un terrain où tout simplement le politique, le militaire, le législatif, puisque vous avez parlé de charia et de guerre, fonctionne de manière universelle, c'est-à-dire que les hommes finalement peuvent donc se retrouver autour d'un fonctionnement similaire, voilà, puisque nous sommes toujours dans cette optique donc de si vous voulez de qui fait du fonctionnement de l'homme, de ses passions, de sa raison, de la base, hein, finalement la base de tout. Alors prenons la question justement de la charia. Bien, la charia, actuellement, malheureusement, elle a été réduite notamment par les idéologies se réclamant de l'islam, par le salafisme, par des mouvements donc passéistes et rétrogrades. Bien, elle a été réduite en fait à ce qu'on appelle les peines légales. Vous avez cité l'exemple du voleur. Il y a la question de la femme, bien évidemment, les signes vestimentaires, etc. Eh bien, là, en fait, ce ne sont que des parties infimes, en quelque sorte, de ce qu'on a appelé auparavant la charia, ou bien les en fait, il y a le concept de charia qui est actuellement donc très répandu. Qui donne l'impression qu'il y a une loi, mais en fait, avant, on parlait aussi dans les textes philosophiques ou dans les textes juridiques de shara'a, donc c'est-à-dire les lois, au pluriel. Donc,
comme Platon.
Voilà, comme Platon, exactement. Donc, si vous voulez, cette loi n'est pas donnée dans le texte coranique, elle n'est pas donnée dans un corpus, il n'y a pas de corpus, il n'y a pas de code. Donc, il s'appelle la charia, comme on peut parler du code Napoléon, ou du code de Justinien, ou d'autres codes juridiques. Donc, ça, c'est un point très important. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, eh bien, ce code englobait, contrairement donc à l'idée reçue, plusieurs aspects de la vie, donc le statut personnel, la question des contrats, le droit commercial, le droit privé, le droit international, donc la question de la guerre et de la paix. Eh bien, il y avait un système de lois qui était très divers, qui fonctionnait sur le plan politique de manière très très divergente, selon les États, parce qu'il y avait plusieurs tendances, plusieurs doctrines qui peuvent parfois s'opposer, être complètement en désaccord. Il y avait beaucoup de querelles entre les juristes. Eh bien, ce code ou bien ces codes juridiques ont été élaborés par des professionnels du droit, par les juristes. Qui ont principalement émergé donc au 8e siècle, si vous voulez. Bien évidemment, il y a un fond religieux, c'est-à-dire les textes attribués aux prophètes, il y a le texte coranique, mais en fait, le texte coranique ne participe que dans le sens où les gens le lisent et l'interprètent donc à leur manière, ou bien ne puissent que ce qu'ils comprennent
de ce texte. C'est de cela que nous parlerons principalement demain, d'ailleurs, voilà, avec Abdelwahab, l'enjeu politique qui se trouve considérable derrière la possibilité d'une interprétation séculière du Coran. Absolument. Et puis surtout, la façon de le faire, ça je renvoie l'auditeur à l'émission de demain. Mm-hmm. Il nous reste peu de temps, Makram Abbès.
La guerre peut-être.
Voilà, la guerre.
Alors, donc, je disais que, effectivement, la question de la loi doit être donc... si vous voulez, pour être abordé sereinement, il faudrait l'aborder. Donc, il faudrait sortir de ce préjugé qui la cantonne dans la question des peines légales. Malheureusement, les médias jouent un rôle important, et surtout les mouvements se réclamant de l'islam qui veulent remettre qui veulent que la charia soit le système social et politique adopté par les États, eh bien réduisent souvent son fonctionnement à ces quelques aspects. Voilà. S'agissant maintenant du djihad, là encore, nous constatons à l'heure actuelle que tout cela, en fait, toutes ces thématiques tournent autour de la question du terrorisme, donc de la violence, de la haine de l'autre. Si on étudie donc de manière approfondie donc cette question, nous allons constater qu'il y a une pluralité de conceptions de la guerre en islam qui ne se réduit pas du tout donc à la question de la guerre sainte ou bien à la guerre sacrée, mais qu'il y a aussi des guerres, donc une théorisation de la guerre entre les princes musulmans. Donc c'est ce qui s'est passé d'ailleurs concrètement dans l'histoire.
Vous voulez dire que ça n'est que récemment que djihad est l'équivalent de guerre sainte ?
Si vous voulez, donc lorsque la tradition du djihad a été découverte donc par les travaux des orientalistes, on l'a assimilé tout de suite à guerre sainte, notamment pendant la période de décolonisation. Mais là encore, il s'agit en fait d'une guerre défensive en fait de certains pays donc qui étaient colonisés et qui voulaient se libérer. Donc là, la guerre, si vous voulez, de libération nationale a été assimilée à la fois par les orientalistes mais aussi par les acteurs à une guerre donc motivée par la religion, mais en fait finalement ce n'était qu'une guerre de libération. Mais cette acception du djihad a été bien évidemment accentuée par les événements récents, le 11 septembre, les attentats terroristes en Égypte, en Algérie, les guerres civiles, etc. Mais par exemple, on remonte à l'époque médiévale, nous allons constater chez les juristes de l'islam, par exemple, dès le 8e siècle, même si la guerre est souvent définie comme un acte dirigé contre le polythéisme, donc comme un acte qui se fait sur des critères religieux, eh bien nous allons constater qu'il y avait beaucoup de choses relatives, par exemple, à la distinction entre combattants et civils. On n'a pas le droit, par exemple, dans la théorie de la guerre développée par les juristes de l'islam, de combattre les civils. Les femmes, les enfants, les vieillards, même les moines. C'est-à-dire ceux
quiconque
qui sont...
tue un civil voilà. Au nom de l'islam trahit l'islam.
Ah, voilà, absolument. Et là, c'est important parce que cette distinction, justement, elle est à l'origine du droit humanitaire moderne. Donc vous voyez très bien qu'il y a donc beaucoup de nuances à apporter. La même chose existe au niveau des textes de Miroir des Princes où la guerre est abordée comme un phénomène humain. Donc, qui est tributaire du politique et non pas du religieux.
Beaucoup de nuances à apporter, on le sent à vous entendre et cette émission s'achève avec le sentiment, bien heureux d'ailleurs, qu'elle commence à peine. Merci beaucoup, Makram Abbès.
Hein.
On aurait pu parler effectivement de beaucoup de choses. On reviendra probablement sur tous ces sujets et en particulier leurs interprétations les plus contemporaine. On n'a pas non plus parlé du Miroir des Princes, d'ailleurs.
Malheureusement.
Mea culpa, je renvoie l'auditeur quand même à votre livre « Islam et politique à l'âge classique ». Vous en parlez beaucoup et fort bien. C'est aux Presses universitaires de France. On va finir cette émission avec un poème magnifique de Mahmoud Darwish sur le peuple palestinien, le peuple en devenir, le peuple à venir palestinien, les conditions de possibilité d'un peuple palestinien. Et puis Armstrong, parce que c'est beau. Écoutez.
Nous serons un peuple... Si nous le voulons, lorsque nous saurons que nous ne sommes pas des anges et que le mal n'est pas l'apanage des autres. Nous serons un peuple lorsque nous ne dirons pas une prière d'action de grâce à la patrie sacrée chaque fois que le pauvre aura trouvé de quoi dîner. Nous serons un peuple lorsque nous insulterons le sultan et le chambellan du sultan sans être jugés. Nous serons un peuple lorsque le poète pourra faire une description érotique du ventre de la danseuse. Nous serons un peuple lorsque nous oublierons ce que nous dit la tribu, que l'individu s'attachera aux petits détails. Nous serons un peuple lorsque l'écrivain regardera les étoiles sans dire « notre patrie est encore plus élevée et plus belle ». Nous serons un peuple lorsque la police des mœurs protégera la prostituée et la femme adultère contre les bastonnades dans les rues. Nous serons un peuple lorsque le Palestinien ne se souviendra de son drapeau que sur les stades, dans les concours de beauté et lors des commémorations de la Nakba seulement. Nous serons un peuple lorsque le chanteur sera autorisé à psalmodier un verset de la sourate du Rahman dans un mariage mixte. Nous serons un peuple lorsque nous respecterons la justesse et que nous respecterons l'erreur.
Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell
gods in Egypt land.
Let my people go.
Oppressed so hard they could not stand.
Let my people go.
So the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down.
Down
in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down.
Down
in Egypt land. Tell old Pharaoh.
Voilà, 10h50 sur France Culture. On retrouve tout de suite le journal des nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
On est impatient d'entendre Chantal Jacquet dans votre journal parler de l'odorat.
Oui, bonjour à tous. On change complètement d'univers puisqu'on passe de la démocratie à l'odorat à l'occasion d'un livre qu'on trouve en ce moment aux éditions PUF sur la philosophie de l'odorat qui nous propose d'examiner la manière dont l'esprit vient aussi du nez. Alors, à quelles conditions peut-on faire du nez autre chose qu'un usage cosmétique? Et pourquoi a-t-on tant de mal à admettre que l'odeur puisse exprimer une idée? Autant de questions et de réflexions qui sont celles de ce livre et dont l'auteur, la philosophe Chantal Jacquet, va nous donner des éléments de réponse aujourd'hui. Bonjour Chantal Jacquet.
Bonjour.
De tous les sens, l'odorat est toujours apparu comme le sens le plus faible, celui que l'on accepterait le plus volontiers de perdre. Si on avait à renoncer à un sens, on choisirait souvent, les gens disent qu'ils préféraient perdre l'odorat que la vue ou le toucher ou encore l'ouïe. C'est donc le sens qui paraît le moins noble. Alors comment expliquer cette dépréciation, voire cette dévalorisation de l'odorat par rapport aux autres sens, Chantal Jacquet? Et est-ce que les raisons pour lesquelles l'odorat est déprécié ne sont pas précisément les mêmes raisons pour lesquelles on pourrait valoriser à nouveau l'odorat? Chantal Jacquet.
Bien, l'odorat a souvent été déprécié, surtout dans la culture occidentale, en raison de sa prétendue faiblesse, mais faiblesse qui peut être cultivée, faiblesse qui peut être effectivement réversible, dans la mesure où on peut penser que justement, si l'odorat ou les odeurs sont subtiles, elles peuvent permettre d'expliquer et d'exprimer des pensées ténues, elles peuvent permettre de comprendre l'invisible. Et de la même manière, on a rejeté aussi l'odorat et les odeurs parce que c'était peut-être en nous l'expression du sens le plus grossier, le plus proche de l'animalité.
Le plus proche de l'animal, oui, c'est ça.
Voilà. Et on peut, comme le fait Nietzsche, revendiquer le fait que l'homme est un animal, l'animal le plus puissant. Et il faut peut-être arrêter de penser le divorce entre l'univers humain et l'univers animal pour en penser la continuité, ce qui ne veut pas dire pour autant que l'odorat soit un sens voué à cette animalité. Il peut avoir une spécificité humaine, il peut être cultivé et revendiqué comme tel. Et de la même manière, une des raisons aussi pour lesquelles l'odorat était déprécié, c'est son caractère incommode. Hein. Kant disait à propos de l'odorat que c'était un sens ingrat, hein, puisque au fond, nous respirions les miasmes d'autrui ou des parfums lourds et entêtants. Et de ce fait, il y a dans l'odeur quelque chose d'intrusif qui fait que ça peut s'apparenter à un viol de l'intimité. Mais cette idée que l'odorat sera un sens antisocial est-elle aussi susceptible d'être dépassée ou renversée? Parce que on peut penser aussi que, à la différence de la vue qui est le sens de la distance, l'odorat c'est le sens de la proximité, le sens de l'intimité. Et du même coup, on peut penser des relations sociales, des relations affectives, amoureuses, sur le modèle de l'olfaction, sur le modèle du parfum, parfum de l'être aimé, ou odeur de miasme de l'être rejeté et honni. Hein, celui que l'on est toujours affecté d'une mauvaise odeur, on ne peut pas le sentir. Et dès lors, il y a dans l'odorat toute une anthropologie que l'on peut dégager pour exprimer un univers de la proximité, un univers de la fusion avec le monde, un univers peut-être de l'acceptation de l'autre tel qu'il est, dans sa proximité. Et c'est pourquoi les cultures qui font la place au corps, peut-être, sont sensibles à cette dimension olfactive, à son raffinement.
Oui, cette dimension olfactive est aussi un des seuls sens avec... Oui, encore, non, pas avec lui. Enfin, c'est un sens sur lequel on a très peu de contrôle. On peut fermer les yeux, on peut choisir de ne pas toucher, ne pas goûter quelque chose. L'odorat est quelque chose qui peut être agressif et qui fait du coup qu'on l'associe peut-être plus à quelque chose de négatif.
Effectivement, l'odorat implique au fond qu'il y ait un rapport au monde d'acceptation et que l'on renonce à une forme de contrôle et de toute puissance. Voilà. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles les philosophes qui adorent la posture de la maîtrise ont fait de l'odorat un sens à part où l'on négligeait. La vue a été le modèle précisément du concept, puisque quand on essaye de penser des paradigmes de la connaissance, c'est souvent modèle de la vision, de l'intuition que l'on fait référence. Et renoncer peut-être à la toute puissance, renoncer peut-être à des modèles de domination, ce serait rechercher du côté des sons, rechercher aussi du côté de l'olfaction, comme le font des philosophes comme Nietzsche, qui proclament que tout son génie est dans ses narines, et que à l'aide de son flair, sa sagacité, puisque sagax étymologiquement signifie celui qui a du flair, avec sa sagacité, il va débusquer la puanteur du mensonge et puis respirer des parfums tout autres.
Oui, et pourtant l'odorat n'est pas uniquement du côté de l'odeur et de quelque chose qui sent bon ou qui sent mauvais, mais c'est également du côté du beau. Vous dites qu'on peut essayer de remplacer le sentir bon par le sentir beau. C'est bien mettre l'odorat à l'origine de tout un développement d'un art olfactif.
Et ce qui m'a animé justement dans cette démarche de réflexion sur l'odorat, c'est l'idée que l'on pouvait essayer de tenter de constituer une esthétique olfactive. Un peu comme lorsque le couturier Kenzo veut substituer la formule « ça sent bon » la formule « ça sent beau » à la formule « ça sent bon » pour montrer qu'il peut y avoir des valeurs esthétiques. Et il y a des cultures, justement, qui ont été sensibles à l'appréciation des odeurs, non pas pour se parfumer, non pas dans le but de la séduction, non pas dans le but de l'hygiène, mais par pur plaisir. Et je pense en particulier à cet art qui se développe au Japon, qu'on appelle la voie des fragrances, le kodo, où les maîtres de cérémonie font respirer des odeurs. On appelle ça écouter les fragrances, parce que ça suppose une attention. Et les esthètes se réunissent, commentent ces fragrances et font des petits poèmes pour exprimer leurs nuances, pour exprimer la volatilité du monde, sa fulgurance, sa beauté splendide et fragile en même temps. Et sans doute que cette esthétique olfactive, c'est une esthétique qui est tournée du côté de l'éphémère pour rendre le fluide, le ténu, l'instant. Et si une esthétique contemporaine venait à se développer au niveau olfactif, sans doute devrait-elle prendre en compte cette dimension de l'éphémère et il faudrait la chercher du côté des performances.
Oui, puisque l'odorat nous donne des modèles de pensée et d'appréhension d'un réel qui est bien particulier. C'est un réel à la fois invisible et volatile, vous l'avez bien dit, et vous l'expliquez bien dans votre livre, Chantal Jacquet. Le titre de votre livre, c'est « Philosophie de l'odorat » et on trouve ça aux éditions PUF en ce moment. Merci beaucoup.
Merci. Et c'est vraiment très bien. De quoi voulez-vous nous parler également, Adèle ?
Un livre sur les mondes possible, intitulé à l'angle des mondes possibles, écrit par la philosophe Anne Coquelin, qui paraît en ce moment au PUF, et qui part de l'affirmation des philosophes de l'Antiquité selon lesquels le monde est un, avec la Terre au centre et l'homme qui tient la meilleure place parmi les vivants. Mais c'est peut-être de l'affirmation de l'unicité de ce monde qu'est né le désir des autres mondes, sinon réel, du moins possible. Mais quelle est la réalité de ces mondes possibles ? C'est l'interrogation phare de ce livre. Alors du modèle aristotélicien qui propose un monde mais plusieurs cieux, à l'infinité de l'univers pascalien, en passant par l'existence virtuelle des monades, l'auteur explore les mondes alternes à partir d'ontologies différentes, mais également à partir du monde de l'art et de l'univers des jeux, qui est donc autant question d'Aristote et de Leibniz que d'Emma Bovary, de La Joconde et de Second Life. Voilà, ça s'appelle À l'angle des mondes possibles, c'est d'Anne Coquelin et on trouve ça aux éditions PUF.
Et on trouve ça également en ligne sur notre site internet. Merci à tous, de l'islam et la démocratie au génie des racines, au génie des narines, pardon, c'était le monde possible du jour. Une émission que vous pouvez retrouver sur internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance où vous attendent une vaste bibliographie, l'écoute en ligne des émissions du mois et le téléchargement des émissions de la semaine. Une semaine sur l'islam qui s'achève demain en compagnie d'Abdelwahab Medeb, que les auditeurs de France Culture connaissent très bien. Abdelwahab Medeb qui vous montrera pourquoi et comment interpréter le Coran. Rien de moins. We'll be right back. À demain donc, comme tous les jours, de 10h à 11h. Pour l'heure, il est 10h59 sur France Culture. Et dans un instant, question d'époque.